France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que peut l'art dans un pays détruit? Presque rien, hélas. Nous nous raccrochons à ce presque décisif qui se refuse au rien. C'est ainsi que le philosophe Nibras Shehayed désigne, dans son superbe livre « La destructivité en œuvre », ce presque rien de beauté, de délicatesse et de lucidité qui, chez les artistes syriens, fit front à la destruction. Il y montre notamment comment l'œuvre du grand artiste Naja al-Boukaï, cette œuvre au noir qui grave dans le corps des suppliciés les épreuves de la guerre, a aujourd'hui valeur probatoire. Car il ne s'agit pas seulement de la guerre en Syrie, non. Ces corps gravés font preuve de ce que Farouk Mardam Bey a appelé la syrianisation du monde. Bien entendu que cela nous regarde, puisque depuis 2011, ce qui se joue en Syrie est aussi une guerre d'image, dont Cécile Boeix nous montre qu'elle a profité aux tortionnaires tout aussi bien qu'aux rebelles et émoussé notre croyance dans la capacité des images à soulever l'indignation du monde. Que reste-t-il alors? Je vous l'ai dit. Ce presque rien de beauté que l'on appelle art, mais que l'on pourrait tout aussi bien appeler humanité. On en parle avec Naja al-Boukaï et Cécile Boeix, rejoint par Nibras Shehayed, puis notre sociétaire du jour, Pierre Saint-Garavello. Et ce dont on parle, de cette bouleversante capacité humaine à résister à la violence la plus atroce, cette inventivité aussi, comme dans le théâtre de marionnettes de Massacit Mati, Top Gun, pour conjurer l'horreur. Écoutez.
بصوت الكل يكفي زل هزينا الارض بصوت الكل يكفي زل لا للموت ولا للزل لا للموت ولا للزل ارحل انت الشبيح الاول.
Cette vidéo, comme beaucoup de sons, de chansons et d'archives que nous entendrons tout au long de cette émission, est extraite de la plateforme numérique Mémoire créative de la Révolution syrienne qui, depuis 2013, documente, et c'est exceptionnel, cette œuvre de civilisation qu'a été la résistance syrienne. Naja al-Boukaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur, graveur, artiste peintre. Vous avez étudié les beaux-arts à Damas puis à Rouen et participé aux manifestations contre la dictature de Bachar al-Assad lors des printemps arabes de 2011. Vous avez été emprisonné plusieurs mois à partir de 2012, notamment dans le redoutable centre 227, et avez quitté la Syrie en 2015 pour le Liban, puis la France. On peut voir actuellement certaines de vos œuvres à la Galerie Europia à Paris jusqu'au 8 mai, et dans un très beau livre de Denis Laffey, paru chez Inviso, sous le titre « Graver la mémoire ». Ce titre dit tout, d'une certaine manière, de votre nécessité et de la douleur aussi qu'il y a dans ces dessins, graver la mémoire.
Peut-être c'est le passage à la technique de la gravure, ce qui m'a aidé à continuer de tracer les dessins que j'avais commencé après mes incarcérations.
La gravure, cette technique en fait que vous aviez appris.
Ça marque les souvenirs pour ne pas disparaître. Qu'ils disparaissent, et en même temps ça décharge toutes les souvenirs qui peuvent causer un peu de problèmes psychologiques.
Cécile Boex, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences à l'EHESS, vous êtes autrice de « Cinéma et politique en Syrie », écriture cinématographique de la contestation en régime autoritaire, paru chez l'Harmattan en 2014, et vous menez des recherches sur les vidéos produites par les opposants et les activistes. Vous avez participé à cet important ouvrage, paru en 2022, sous la direction de Farouk Mardambe, Catherine Kokio, Joël Ubrecht et Enaïla Mansour, « Syrie, le pays brûlé », le livre noir des Assad, 1970-2021. Et je suis obligé de dire que la dernière fois qu'on s'est parlé en public, c'était le 29 novembre 2024 au Théâtre de la Concorde. Et on parlait de la Syrie, on parlait de tout ça. C'était avec Thomas Dodman, ça s'appelait « Revoir la guerre ». Et le 29 novembre commençait, mais on le savait pas, au fond, voilà, l'offensive des rebelles sur Hama, puis Alep.
Oui, j'ai l'impression déjà que ça fait plusieurs années qu'on s'est vu avec tout ce qui s'est passé entre-temps. C'était absolument inespéré.
Oui.
Et le 8 décembre, le régime est tombé. Bachar el-Assad a fui en Russie. Et ça a été un moment assez extraordinaire, avec beaucoup d'émotions contradictoires. Et voilà, maintenant, on est suspendu aussi aux informations, à ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'espoir. Et en même temps, voilà, il y a tout un tas de questions, puisque le pays est ruiné. Mmh. C'est un pays exsangue. Mais
vous envisagez d'y retourner bientôt ?
Très prochainement.
Nibras Chehayed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, alors j'avais dit que vous alliez nous rejoindre, mais en fait, comme la ligne est excellente, eh bien, nous allons converser tout de suite. Vous êtes à Beyrouth, c'est là où vous nous appelez au téléphone. Vous êtes philosophe, chercheur à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient de Beyrouth. Et vous avez publié en 2021, aux presses de l'IFPO, donc avec Guillaume de Vaud-Darcy, « La destructivité en œuvre, essai sur l'art syrien contemporain », j'en citais un extrait tout à l'heure, et dirigé l'année suivante « Images de chair et de sang, penser le corps en Syrie, 2011-2021 ». C'est bien cette question du corps, au fond, du corps gravé, on pourrait dire, pour paraphraser Syrie, le pays brûlé, qui vous intéresse, mais qui vous intéresse en philosophe, du point de vue de l'esthétique.
Exactement, en fait, c'est insister sur le corps, c'est insister sur la nécessité de saisir la violence extrême dans ses configurations les plus incarnées. Donc à travers les configurations des corps, à travers leur métamorphose et à travers ce que ces corps permettent comme relation avec le monde.
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire de belles choses, je fais seulement ce qui me paraît nécessaire, avez-vous déclaré, Naja Al-Boukaï. On va commencer, comme c'est d'usage dans cette émission, par regarder une de vos œuvres. C'est une œuvre très importante, elle fait 1m70 sur 1m20, hein, c'est ça. Mm-hmm. Et elle s'appelle « Dans la cage ».
227.
Est-ce que vous pouvez la décrire peut-être ?
La première fois où j'ai entendu ce mot, la cage 227, c'était peut-être mai 2011, les premières incarcérations qui sont eues dans mon quartier, mes cousins et mes camarades qui rentraient du centre 227, ils disaient que oui, on était dans la cage 227. J'ai eu l'occasion de le visiter la première fois lors de mon incarcération en 2011, où j'ai passé même pas quelques secondes avec la tête penchée parce que j'étais incarcéré dans le sous-sol, mais il fallait passer par le rez-de-chaussée, ça veut dire l'ancien cage. J'avais même pas quelques secondes pour mitrailler l'espace pour voir une centaine, peut-être 200 personnes dans cet espace. Et puis, à ma libération, un mois après, donc j'ai repassé par cette cage. Et en 2014, j'y suis retourné dans le centre de 227 où j'étais incarcéré et j'ai passé 70 jours dans cette cage qui ressemble à... J'ai trouvé un grand format d'une affiche à La Roche-sur-Yon.
C'est de l'encre, hein, de l'encre sur papier.
D'abord, c'était un groupe de... Les Ivigos, je sais pas comment... C'était un groupe de cirque qui passait dans un centre de jeunesse à La Roche-sur-Yon, puis ils ont laissé les affiches. J'ai récupéré les affiches, j'ai dessiné à l'encre chez mon frère qui a une grande table. Et puis à Paris, quand j'ai rencontré le graveur Pierre Collin, il m'a demandé de voir mes dessins. Et puis, il était intéressé par téléphone. Il a vu sur le téléphone. Il m'a proposé de m'octroyer une bourse pour pouvoir la réaliser en gravure. Mmh. Donc, j'ai ramené le dessin à l'école de Beaux-Arts de Lorient. Je l'ai gravé sur une plaque de cuivre qui fait 175 sur 125. Et après, la première tirage n'a pas réussi. On n'a fait qu'une seule essai à l'école de Lorient. Et la presse n'était pas assez forte. Donc, on était obligé d'aller à la métairie Bruyère dans l'Auvergne pour faire des pressions beaucoup plus réussites parce que les cylindres à la métairie Bruyère, elle est beaucoup plus lourd. Et j'ai l'honneur de dire que Juan Miró et Alchinsky, ils utilisaient cette presse.
Et oui, parce qu'évidemment, ça on va en parler du point de vue de l'histoire de l'art. Vous avez été ensuite à Madrid et on vous a dit, voilà, vous êtes le Goya syrien, mais d'une certaine manière, ici on peut dire que on pense davantage à Piranèse qu'à Goya parce que c'est un tapis de suppliciés, écrivez-vous Nibras Chehayed dans votre livre, un seul torsionnaire et pourtant un tapis de suppliciés agonisant jonche le sol sur les trois quarts restants de la feuille. On en compte 130 de ces corps. On a l'impression comme ça, une sorte de labyrinthe, justement, de Piranèse. Et pourtant, c'est ce que vous montrez dans votre livre, Nibras Chehayed, il y a une composition. Et ce qui fait bascule dans cette composition, c'est la figure du torsionnaire.
Exactement, c'est la figure du torsionnaire. Ce que je trouve très intéressant dans cette œuvre, c'est un paradoxe. Parce que l'œuvre, et de manière générale le travail de Najjar, à travers la documentation picturale de la torture, il crée une archive. Donc, pour un lieu qui se veut exactement sans archives, sans images, qui se veut sans monde, il est coupé du monde. Najjar nous montre dans ce tableau les conditions affreuses de la vie et de la mort dans ce lieu, le rapport entre les détenus, s'il y a rapport, et puis surtout le rapport avec les morts. Mais d'autre part, ce travail de documentation, si on le compare au récit même de Najjar sur sa propre incarcération, manifeste une réduction considérable dans la figuration des pratiques torsionnaires. Comme vous venez de souligner, il y a un seul torsionnaire et à peine visible, il faut vraiment le chercher, sur ce tapis interminable de suppliciés. Donc Najjar a créé une archive dans cette œuvre, mais en réduisant la figuration des pratiques qu'il archive. Mais je crois que c'est là le vrai travail de l'artiste, et je dirais c'est ça le paradoxe esthétique ici, c'est que cette réduction n'en est pas une en réalité, car la simplification ici des pratiques de torture est en contraste avec les effets de la torture.
Et puis, on voit très bien, effectivement, quand vous dites dans votre livre que le torsionnaire fait bascule, c'est que avant lui, si on veut lire cet amas de corps comme un texte, avant lui, il y a quelques scènes de la vie quotidienne, pourrait-on dire, enfin, en tout cas, plus ou moins ordonnées, humanisées, dans la cage de 127. Et après, eh bien, il y a l'horreur, et notamment quand on prête un peu le regard, quand on s'approche, eh bien, des images terribles, notamment de cette torture de la chaise allemande. Cécile Boeckx, évidemment, là, on est au cœur de l'archive, au fond. Hein. C'est-à-dire, l'art, pour l'instant, documente la terreur. Vous en avez vu bien d'autres, des images terribles aussi, qui font preuve également. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui de cette scène aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant que le régime est tombé.
Ce qui est très frappant, c'est cette promiscuité entre la vie, entre les vivants et les morts, dans ce temps suspendu, ce temps impossible. Et on voit bien aussi à quel point les conditions de détention, en dehors des séances d'interrogatoire, sont une forme de torture. Alors, on a parlé de documentation, d'archives. Je trouve qu'il y a aussi il y a une composition, il y a une narration, il y a un récit dans cette gravure qui, quelque part, va réintroduire du sens là où le sens est justement censé être anéanti. Et je trouve aussi que le soin apportée au dessin des corps, aux détails. Il y a d'autres dessins de Najjar où on voit aussi les regards, les visages des détenus. Ce soin, quelque part, il défait le geste des bourreaux. Et tout le temps que tu as passé à... On en parlait tout à l'heure, je dis que tu as mis combien de temps à faire cette gravure? Tu me disais des années. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la documentation, mais aussi quelque chose qui va contre ça. Je trouve que ça va plus loin que la documentation.
Najjar Al-Boukhari.
Le dessin, j'emprunte ce qu'il a dit Renoir une fois. Il voulait vendre une peinture, et puis la dame, il a dit, ça vous a pris combien, 20 minutes? Il a dit, non madame, c'est 32 ans et 20 minutes. Je l'ai dessiné en 2017, ça veut dire que j'avais 47 ans. Et moi, je suis né avec l'arrivée de Hafez Assad, le régime.
Vous êtes né à Homs.
Né à Homs.
1970. Donc,
certainement, ce dessin, ça résume les 47 ans que j'ai vécu avec le régime de Assad.
Et puis, il y en a bien d'autres, des dessins. Là, on ne voit que celui-là, mais il y a effectivement toute une gamme de corps. Alors, ce qui est intéressant, Nibras Chehayed, vous êtes avec nous au téléphone de Beyrouth. Vous avez étudié cette question du corps, cette opposition, dites-vous, entre le corps absolu et le corps nihiliste. Car ce qu'il y a d'absolu dans ces corps suppliciés, c'est l'intensité, au fond, de l'humanité, qui demeure, je dirais, inexplicable. Punable, quelle que soit au fond la volonté féroce du tortionnaire pour déshumaniser.
Tout à fait, tout à fait. Ce que je dis, je crois, et Najjar, à mon avis, dans son attitude, le confirme, c'est que la vie était tue, je dirais. La vie était tue malgré tout. Et qu'au sein de cet enfer, il y a quand même quelque chose de presque rien de vie qui s'affirme. Et donc, par rapport à la question du corps, comme je disais tout à l'heure, dans cette cellule, c'est un lieu coupé du monde. Mais alors, dans ce lieu coupé du monde, il y a peut-être un presque rien de monde qui peut naître à travers tout ce travail de d'incorporation que permet le corps. Tout se passe comme si le monde survivait à sa destruction lorsqu'il est incorporé, lorsqu'il surgit sur les bords de ce tableau à travers les fantômes. Les morts reviennent. On ne les oublie pas.
T'évanouis, tu fuis, tu fuis.
Oh, mais je te garde, c'est promis. Mais
les mots tréfonds de longues nuits. Et quand vient l'aurore se pose ton souffle sur mes échymoses, tu viens les guérir en silence. Ton souvenir seul les pense. Je ne suis plus qu'une ville en cendres. Sous mes murailles gisent les méandres de quelques vagrettes de toi, de quelques bouts de vie. Tu vois, non, jamais je ne t'ai oublié. Je t'ai gardé, je t'ai gardé. Je prierai ton nom jusqu'au ciel, jusqu'au creux de ma citadelle. Je ne suis plus qu'une ville en cendres. Sous mes murailles gisent les méandres de quelques vagresses de toi, de quelques bouts de vie. Tu vois, non, jamais je ne t'ai oublié. Je t'ai gardé, je t'ai gardé. Je crierai ton nom jusqu'au ciel, jusqu'à la dernière étincelle.
Les frangines, Choir of Aleppo. Nous sommes avec Nadja Al-Boukaï. Nous parlons de son œuvre. De son œuvre, on pourrait dire ce que disait Zoran Muzic. C'est horriblement beau. C'est horriblement beau. Il y a quelque chose quand même dans la terreur que vous mettez, je dirais, que vous rendez visible dans un geste qui est un geste aussi, on va parler de la terreur, Cécile Boeix, mais un geste qui est artistique, faut pas l'oublier. Là, on a parlé de documentation, mais c'est un geste qui, d'une certaine manière, produit une beauté.
Est-ce que le dessinateur peut capter des détails que les autres, peut-être, ça les intéresse pas? Quand je parle de cette cage, cet espace de 16 mètres sur 4 et quelques, avec hauteur de 3 mètres et quelques, où on trouve des prisonniers, des suppliés, des cadavres, des gens qui, des malades, des gens qui agonisent. En même temps, il y a des interrogatoires. Il y a des gens qui sont pendus par là, sur le même espace. Il y a des gens qui préparent les repas, les pommes de terre qui sont, et qui, des gens qui donnent des gens qui parlent de n'importe quoi. Tout cette,
Cette humanité
dans un seul lieu, avec les formes et les lumières qui n'arrêtent pas de m'amuser pendant que j'étais là-bas, à regarder tous les détails, tous les corps.
C'est-à-dire que c'est ça, c'est une humanité défaite, marquée par la souffrance, la douleur. Quand on s'approche, Cécile Boeix, on voit que chaque corps est marqué et supplicié. Et donc, voilà, on ne peut pas ne pas revenir à cette question qui intéresse non seulement les historiennes, les historiens, mais les citoyens, parce que il s'agit de documenter l'horreur pour faire preuve, et pour faire preuve lors de procès. Là, on parle de terreur.
Oui, là, on est dans la terreur, dans toute sa brutalité. Et je crois qu'avec le conflit en Syrie, on ne s'est jamais approché aussi près de la violence extrême dans les images et par les images, parce qu'il y a certains types d'images, et notamment les images, les vidéos des bourreaux. Ce sont des vidéos qui ont été filmées dès le début de la révolution en 2011, qui durent jusqu'à 2013, qui fuitent sur Internet. Donc, ce sont des bourreaux, des membres de la sécurité, des services de sécurité ou des soldats qui se filment en train de torturer.
Pourquoi ?
C'est un dispositif qui participe à la cruauté. C'est quelque chose qui fait, qui est institutionnalisé. En fait, ces vidéos, elles ont fuité, mais on peut imaginer aussi que le régime tolère et même encourage ce genre de fuite pour terroriser.
Et ça participe de la, oui, c'est ça.
Oui, c'est la terrorisation par l'image. Et en même temps, au moment de la torture, ça, à chaque fois, ça conforte les bourreaux dans leur impunité. Et c'est vraiment un dispositif de comment on prend possession aussi du corps, du regard, de l'image de l'autre. Donc c'est un dispositif de la torture, cette image, ces vidéos-là.
La spécificité de la guerre civile syrienne, c'est qu'elle est contemporaine du smartphone, en fait.
L'arrivée du smartphone, voilà. Et les Facebook et la série des superstars.
Et ce que vous montrez, Cécile Boeck, c'est que l'abondance de la documentation produit paradoxalement, je vous cite, une autre forme d'invisibilité.
Oui, tout à fait. Alors là, je parle plutôt. Alors, ces vidéos de torture dont je parle, hein, elles ont très peu affleuré à la surface des médias. Elles sont pas traduites, elles sont très opaques. Il y a tout un tas d'autres formes de documentation, puisque dès le départ, hein, des manifestants ordinaires vont filmer avec leur téléphone portable, et ensuite on va avoir une professionnalisation de l'image avec des formes d'activisme par l'image. Où il s'agit de contextualiser, il s'agit de témoigner aussi, de recueillir des témoignages.
Écoutez, on va justement en écouter une de vidéo et vous allez nous expliquer ce qui se passe à l'écran.
Ahia tabi'iyya, les gens yatabaddaoun les siyarat les sarabis tassir bishakl tabi'i. بينما نحن في أحياء المعارضة هذه هي حالنا قصف.
C'est extraordinaire, Cécile Boeck, parce que là, on est à la radio, le son est très clair, mais l'image, elle est opaque, en fait.
Oui, absolument. Donc c'est une vidéo, on est à Homs, on est en 2012. Homs, c'était la capitale de la révolution, donc elle est particulièrement visée par la répression. Et là, on est vraiment dans qu'est-ce que ça veut dire que de filmer, de témoigner quand sa vie est en jeu, puisque le corps, le fait de commenter à ce moment-là où on est visé par des tirs, c'est censé être une preuve. Les preuves, elles sont faites avec les moyens du bord dans ce type de témoignage.
Et là, en l'occurrence, l'engagement du corps.
L'engagement du corps. Et donc, ce qui se passe dans cette vidéo, c'est qu'au début, il va zoomer sur le quartier qui est à côté, qui est un quartier pro-régime, où on voit la circulation. Et ensuite, il dézoome pour montrer là où il est. Donc, il est dans un bâtiment détruit. Et il montre, il dit, voilà, chez nous, c'est les tirs et la destruction. Et puis, il est visé. On entend les tirs qui se rapprochent. Et la caméra tombe par terre, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer à commenter, il va continuer à témoigner, il va continuer à... Et cette entête, cette obstination, en fait, du témoignage, elle est vraiment extrêmement impressionnante. Et ce sont des vidéos qui sont très incarnées, puisque comme vous le dites, le son est très clair, et l'image, elle devient impossible, en fait. On est dans l'œil du cyclone, et l'image est... Et parce qu'on est dans l'œil, on est au cœur de la violence, l'image, tout d'un coup, devient impossible.
On continue, on va en écouter une deuxième.
Là, on est plus tard, dans un quartier d'Alep en 2014. Et en fait, quand j'ai trouvé cette vidéo qui avait presque aucune vue, ça m'a beaucoup intriguée parce qu'elle dure presque 7 minutes. Et il n'y a absolument aucun commentaire. Et c'est comme s'il y avait une sorte de renoncement, une sorte de désillusion par rapport au pouvoir des images à témoigner, à arrêter la violence. Et c'est un moment où il y a un basculement en fait dans le conflit, puisque c'est l'instauration de l'État islamique et les médias s'intéressent plus du tout en fait au bombardement qui touche les civils. Et donc on voit les preneurs d'images, l'image est très très nette, il y a un logo, donc c'est quand même des professionnels, mais c'est une image muette. Et donc ils avancent dans les décombres comme ça, il y a même un montage, et c'est comme si la ruine en fait était censée faire preuve par elle-même, mais qu'il y avait presque plus la possibilité de dire ce qui se passait, puisque ce témoignage s'adresse finalement peut-être aux gens qui habitent ce quartier, aux déplacés, à ceux qui sont en exil pour savoir si leur maison a été touchée. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que on a l'impression qu'il y a, il filme en même temps qu'il regarde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'outillage du regard, et ça rejoint ce que tu disais, Najar, sur on regarde avec un certain regard, son regard. C'est comme s'ils avaient besoin de la caméra, en fait, pour affronter le réel. Donc il y a une dimension existentielle aussi dans cette.
Ce qui me frappe d'ailleurs, Cécile Boeck, vous l'écrivez, c'est terrible, c'est que ces vidéos, elles sont passées relativement inaperçues, en tout cas pour les opinions occidentales. C'est un échec, d'une certaine manière, à faire naître l'indignation par l'image. Parce que, dites-vous, il y en avait d'autres à l'époque qui étaient beaucoup plus lisibles, beaucoup plus dans les critères de l'iconographie. C'était les vidéos de Daesh. Et là, les vidéos de Daesh, il n'y a pas de hors champ, c'est frontal, c'est clair. C'est ça qu'on regardait.
Il y a une ultra lisibilité, une ultra résolution de l'image. Il n'y a pas, comme vous dites, il n'y a pas de hors-champ, il n'y a pas de contre-champ. Et ils utilisent tout à fait les codes en fait, qu'on connaît, les codes de l'image qu'on connaît. Et donc ces vidéos, elles ont complètement invisibilisé toutes les autres. Et elles sont devenues, avec la viralité qu'on leur connaît.
Najah El-Boukhaï, cette question-là de la visibilité, de l'invisibilité des yeux bandés si souvent ou des yeux exorbités, des corps suppliciés que vous dessinez, que vous peignez, que vous gravez, elle est omniprésente et obsessionnelle dans votre œuvre. Il y a cette manière de montrer ce qu'on ne voyait pas peut-être lorsqu'on était dans ces amas de corps suppliciés et que vous voyez maintenant parce que, il faut le dire, c'est après coup que vous avez produit toutes ces images. Vous dites dans un entretien comme une imprimante qui, d'une certaine manière, crachait toute son encre, tout ce qu'elle avait retenu.
C'est bien pour un dessinateur d'avoir un mémoire très ou une carte de mémoire dans son cerveau qui peuvent garder le maximum des images jusqu'à un moment où ça devient très difficile pour les cerveaux, comme si on a un ordinateur ou un autre portable est trop chargé, il commence à avoir des virus, et puis il devient très chaud, et puis ça va poser des problèmes pour le... Il va s'exploser ou il va tomber en panne. Et heureusement que j'ai eu la chance d'arriver à Beyrouth et la liberté de dessiner. Et c'est là où les images sortaient, il fallait que je décharge tout.
Et ça continue aujourd'hui.
Et ça continue, même s'il y a d'autres éléments qui rentrent dans le dessin, qui peuvent amuser. Peut-être je me pose plus des questions. Je regrette peut-être la période où j'ai dessiné au début sans me poser des questions. Là, c'est des questions esthétiques pour être dans le monde de l'art, les galeries. Mais quand même, j'essaie de me réserver.
Mathieu Pottebonneville est philosophe, c'est un habitué de notre émission, c'est le directeur du département culture et création du Centre Beaubourg, et régulièrement, il nous envoie des cartes postales.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, songeant aux difficultés que vous rencontrez sans doute semaine après semaine à déchiffrer l'écriture impossible qui couvre mes cartes postales, je me dis que le temps est venu d'un aveu, il se trouve que je suis gaucher. Or, si l'on en a heureusement terminé avec les préjugés contre notre côté du monde, il serait peut-être dommage de perdre de vue la contribution que nous autres gauchers pouvons apporter à l'édifice de l'expérience humaine. Contribution qui justement tient à une certaine façon de perdre de vue ce que l'on trace, dessine ou écrit, voire d'y perdre la vue. Être gaucher, du moins dans les systèmes d'écriture dits horizontaux d'extroverse, ceux où les lettres et les phrases progressent de gauche à droite, c'est être constamment confronté à l'éclipse du mot que l'on écrit sous la main qui le trace. C'est n'avoir sous les yeux que la fine pointe de la toute dernière boucle, la ligne qui vient à votre rencontre, cependant que les signes à peine déposés glissent sous vos doigts repliés, au risque de voir ceux-ci traîner à leur suite un sillage d'encre fraîche, mince gâchis qui s'étend littéralement par-devers vous à mesure que vous avancez, confiant, sans rien voir, au long de votre page d'écriture, et que vous découvrirez trop tard. J'ignore, à vrai dire, je ne saurais jamais vraiment ce qu'il en est pour les droitiers, ni comment perçoivent cette expérience celles et ceux qui pratiquent les écritures sinistroverses, comme l'arabe. Ce dont je me souviens, par contre, c'est de m'être reconnu, dans la lecture du texte que Jacques Derrida écrivit pour le catalogue de son exposition au Louvre, intitulé « Mémoire d'aveugle, autoportrait et autres ruines ». Pour justifier le choix qu'il avait fait de rassembler dans cette exposition des dessins et des gravures représentant des scènes d'aveugles ou de malvoyants, d'yeux crevés ou bandés, d'infirmes avançant paumes ouvertes ou de parties de Colin Maillard, Derrida soutenait une thèse paradoxale. Bien sûr, disait-il, le dessin et la gravure sont traditionnellement placés sous l'autorité de la vue et de la mémoire. Leur tâche est d'accueillir ce qui apparaît, d'en conjurer l'effacement, bien sûr. Mais ils auraient peut-être aussi pour condition un certain aveuglement. Même si le modèle est en face de l'artiste, écrit Derrida, il faut que le trait procède dans la nuit, comme étant les artistes à progresser à l'aveugle. Cela, les gauchers le savent bien. On dessine ce que l'on voit, et l'on ne voit pas ce que l'on dessine. Et comme Derrida le suggère, ce n'est peut-être pas étranger à la manière dont, de Francisco de Goya jusqu'à Naja al-Boukaï, le dessin peut, comme aucun autre médium, faire droit aux catastrophes du regard, à ce qu'il est impossible de soutenir des yeux, aux humains devenus longuement méconnaissables, à la nuit assurée qui mange les corps et les visages. Ainsi, le tracé le plus précis, la certitude d'avoir vu, le geste de donner à voir, envelopperait, comme pris dans leur doublure, cet impouvoir de l'œil et cette obligation d'avancer à tâtons, cette lucidité accidentée que Derrida ramasse dans une belle formule, le dessin décrit ce qui arrive au regard. Une remarque encore. Être gaucher, ce n'est pas seulement voir disparaître sous sa propre main la ligne toute fraîche. C'est aussi mesurer à chaque instant ce qui reste à écrire. De même, le dessin ne témoigne pas seulement pour ce que nos yeux ne peuvent pas soutenir. À naviguer par exemple parmi les milliers de documents collectés depuis 2013 par la plateforme numérique Creative Memory of the Syrian Revolution, à mesurer l'immense part qui occupe les dessins, les graffitis, les œuvres murales, les gravures, les calligraphies laissées par les révolutionnaires, on mesure que le dessin n'aide pas seulement à témoigner pour ce qui arrive au regard, mais à porter le regard sur ce qui arrive, sur ce qui vient ou qu'on s'efforce de faire venir. Après tout, la définition que Léonard donnait du dessin conviendrait peut-être aussi bien à la révolution « e cosa mentale ».
France Culture. Allons-y voir, Patrick Boucheron.
Nibras Chehayed, vous êtes au téléphone depuis Beyrouth, vous aussi vous êtes philosophe, et c'est en philosophe que vous regardez cette œuvre, cette archive visuelle pour un lieu qui se voulait sans archives, sans images, la terreur syrienne. Au-delà du point de vue testimonial, il y a bien pour vous une esthétique du désastre, et notamment évidemment chez Naja al-Boukaï.
Voilà, tout à fait. En fait, la question peut-être qui se pose ici, c'est que comment regarder le terrible ? La documentation donne une dimension, mais l'esthétique donne une autre dimension nécessaire. L'esthétique, non pas seulement dans le sens du beau, mais aussi dans ce que peut être saisi par les sens, dans son sens donc grec premier du terme. Mais bon, ce qu'il s'agit ici de saisir par les sens, c'est très macabre, c'est la déshumanisation. Alors la question, c'est... comment l'œuvre éduque les sens, là on a entendu tout à l'heure l'œil, tour de l'œil, pour pouvoir saisir ce qui advient de terrible. En écoutant ce que Cécile a dit sur l'œil, et là ce qu'on a entendu tout à l'heure sur l'aveuglement, j'évoque un autre artiste, Youssef Abdelki. Dans sa série intitulée Martyr, il y a un aveuglement, mais c'est l'œil mort, l'œil du mort qui nous regarde. Les morts ici, dans ces tableaux, nous adressent toujours un regard comme si leur mort nous parle, nous dit « regarde le monde avec mon œil de mort ». Et dans les yeux de mort, avec le grand talent de l'artiste, on voit qu'il y a 1000 regards spectraux qui brillent. L'œil condense ici un monde invisible qui habite le regard mort.
Pour vous, c'est ça, c'est un héritage spectral, en fait, que cet art de la catastrophe syrienne.
Exactement. À cet endroit-là, il s'agit d'un art spectral qui habite le regard et qui inverse le regard.
Parce que le corps gravé, justement, devient le lieu même de l'installation de cette tragédie, au fond. Il devient le monde, mais pas seulement le monde de la guerre en Syrie, le monde, notre monde.
Exactement, exactement. C'est que comme si le monde pouvait survivre, et les disparus pouvaient survivre à travers ce travail d'incorporation, et donc le corps supplicié ici devient un lieu testimonial pour ce monde, et même, je dirais, un lieu d'humanisation de ce monde en pleine déshumanisation.
Et peut-être n'y a-t-il pas lieu, alors, Cécile Boëx, d'opposer la valeur documentaire et la valeur artistique ou philosophique de ce travail, de cette production d'intelligence et de beauté, parce que fondamentalement, et pour des raisons politiques, il faut documenter le désastre, il faut documenter la tragédie.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, sur l'urgence et la nécessité de documentation, j'aimerais parler de l'exhumation d'images impossibles, des images qu'on n'était pas censé voir à travers les photographies du dossier César, qui a un retournement là des images de bourreaux. César, c'est le pseudonyme d'un ancien photographe légiste de la police militaire syrienne qui a fui la Syrie en emportant avec lui près de 45 000 photographies prises entre 2011 et 2013. Et ces photos, elles montrent notamment des cadavres de détenus incarcérés dans 24 centres de détention à Damas et sa banlieue. Et la plupart des victimes sont des jeunes hommes qui ont des traces de torture évidentes. Les corps sont très émaciés. Et du coup, ça rappelle aussi les images de Najah. Mais c'est comme un hors-champ, en fait, des images de Najah dans le regard des bourreaux. Et donc là, le dossier César, c'est l'horreur brute, c'est l'horreur bureaucratique, la banalité de cette horreur qui les rend vraiment insoutenables.
Ça a eu un rôle dans les procès, absolument. Les procès de Koblenz ou de Paris 2024.
Absolument. Alors malgré l'atrocité de ces images, elles ont joué un rôle extrêmement, enfin tout à fait essentiel, fondamental dans les procès de Koblenz. Donc on a un retournement, puisque ces images ont
été... Koblenz, c'est 2022, c'est ça ?
2022, ça a duré 2 ans, et puis ensuite à Paris, 2024... Et en fait, moi j'ai assisté en fait au procès de Paris. Il y a eu ce moment, à la demande des parties civiles, il y a eu la projection d'une trentaine des photographies du dossier César. C'était un moment très, très, évidemment extrêmement difficile, mais il s'est passé quelque chose d'assez inattendu. Il y avait quelqu'un, une policière, qui était là pour commenter les images, puis au bout d'un moment, plus personne n'a pu parler. Il y a eu un silence. Il y a eu vraiment un recueillement devant ces images, et ce qui est impensable, parce que les images de recueillement, c'est pas des images terribles, c'est pas les images des bourreaux. Mais dans ce contexte-là, il y a pu avoir une sorte de réappropriation.
Et c'est d'ailleurs encore plus que ça, Cécile Boëx, parce que vous montrez que dans votre travail, vous avez pu retrouver des façons, et on parlait d'héritage spectral, de deuil, des retournements au fond pour par des fils notamment et filles de victimes qui réutilisaient ces images atroces, les euphémisaient un petit peu, enfin en tout cas les retouchaient pour en faire des lieux de mémoire, c'est ça ?
En fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ces images, ce sont les dernières images. Les corps disparaissent dans des fosses communes. Donc c'est vraiment la dernière image tangible du disparu. La disparition, c'est des deuils suspendus, c'est des deuils impossibles. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de la possibilité d'un commencement, d'un deuil par défaut, qui peut se faire à partir de ces images. Et notamment, il y a un mois, sur Facebook, j'ai trouvé un fils dont le père faisait partie des photographiés par César. Et ce qu'il a fait, c'est que de manière très simple, et j'ai trouvé ce geste extrêmement fort, il a couvert le corps de son père d'un drap blanc et il l'a mis dans un champ d'herbe. Et en fait, les gens sont venus lui présenter ses condoléances.
لعيونك حنا جينا رجعت خضراء رجعت خضرا اللي بحرا جينا جينا ويلو يلي عادينا جينا جينا ويلو يلي عادينا
On écoute Cécile Boeck.
C'est un chant révolutionnaire d'un groupe d'activistes de Sadar près de Idlib. C'est un groupe qui a attiré mon attention parce qu'ils ont créé des séries télé amateurs entre 2014 et 2018, parfois en enrôlant des combattants pour porter un regard critique sur le régime, mais aussi un regard critique sur la révolution et parfois son dévoiement. Et voilà, je trouvais que c'était une belle chanson faite avec des petits moyens.
Oui.
C'est La vie têtue dont parle Mibrage, je crois.
La vie têtue, c'est aussi effectivement la manière de résister à la dictature. On voulait juste rapidement, parce que le temps commence à manquer, évoquer une autre de vos œuvres, Nadja Al-Boukaï, qui s'appelle Damas Palmyre, hein, où là on voit cette même foule de corps suppliciés, mais qui entoure une tête, justement, qui est la tête du dictateur.
Oui, exactement.
Celle qui vient de tomber.
Oui. Vous voyez que je suis fasciné par l'ancien cache. C'est un lieu qui m'a beaucoup marqué.
C'est toujours la cache de 227.
Toujours la cache, mais moi, point de vue d'un l'œil d'oiseau qui s'envole. Ouais. Donc, il y a une architecture. Mais la présence de la tête, c'est après que j'ai rencontré Rarid Tatari, qui vient d'être libéré le 8 décembre après avoir passé 44 ans dans les prisons du régime. Je l'ai rencontré en 2015 ou 2014, novembre. Il m'a raconté qu'il était réquisitionné pour sculpter un buste pour le président Assad avec des prisonniers à la prison de Palmyre en plâtre. Et l'officier les a filé des boîtes de sardines. C'était la première fois qu'il mangeait de la protéine pour sculpter et gratter c'était du plâtre. Et donc, ici en France, j'avais toujours cette histoire qui me racontait. Donc, j'ai fait cette mélange de compositions que j'ai réalisé à la fin en gravure à l'atelier de Moret de Paris. C'est plusieurs gouaches que j'ai faites. À la fin, j'ai fait une seule gravure.
Alors, Pierre Saint-Garay-Vélou, bonjour.
Bonjour.
Vous venez pour nous parler d'autre chose. Mais au fond, c'est peut-être aussi le même sujet, finalement. C'est le rapport entre l'image, la vérité, la guerre et le pouvoir.
Oui, je veux vous parler d'un conflit un peu oublié, alors qu'il s'agit en fait de la première guerre mondiale, la guerre des boxeurs, dans le nord-est de la Chine, où en 1900, toutes les puissances de la planète, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, le Japon, mais aussi l'Allemagne, l'Italie et même l'Autriche-Hongrie, s'unissent pour réprimer des rebelles chinois qui manient les arts martiaux, d'où leur surnom précisément de boxeurs. Ce sont des adolescents, y compris de nombreuses jeunes femmes, surnommées les Lanternes Rouges, qui s'attaquent aux missionnaires chrétiens, mais aussi aux Chinois convertis et à tous les symboles de l'influence occidentale, accusés de bouleverser l'ordre du monde, provoquant par leur seule présence des inondations, la sécheresse et autres catastrophes naturelles. Et le symbole de cette modernisation imposée par les étrangers, par les occidentaux, eh bien c'est la ville de Tianjin, où se trouvent plusieurs concessions étrangères qui ont été transformées par les Européens en une espèce de vitrine du génie occidental.
Et alors c'est à ce moment-là, en tout cas dans cet endroit-là aussi, que ce conflit global, qui a un retentissement médiatique assez exceptionnel, suscite une production de nouvelles représentations de la Chine.
Oui, puisque en fait, cette guerre des boxeurs est suivie au jour le jour dans le monde occidental. Elle fait régulièrement la une des journaux, notamment grâce aux habitants des concessions étrangères qui transmettent leur point de vue, à l'image d'un jeune ingénieur de 26 ans, Herbert Hoover, le futur président des États-Unis, qui prend en main l'organisation de la défense contre les boxeurs et dont l'épouse, Lou, installe au rez-de-chaussée de leur maison une salle de presse, accueillant une douzaine de correspondants de guerre. Et c'est dans cette belle demeure que se fabrique, pendant la guerre des boxeurs, la légende de Hoover, puisque les rédactions du monde entier sont inondées de papiers à la gloire de cette famille états-unienne modèle. Les Occidentaux transmettent en outre aux rédactions des photographies grâce aux nombreux Kodak qui circulent dans les concessions, notamment pour immortaliser de jeunes boxeurs décapités. Donc on voit que cette histoire des selfies et des mises en scène d'une violence paroxystique est ancienne. Parallèlement, le conflit suscite aussi dans les villes côtières de l'Empire la production de nombreuses images chinoises cette fois, des gravures, qui circulent sous la forme de placards sur les murs des villes ou d'estampes conservées dans les maisons pour communiquer le message politique des boxeurs à une population qui est presque totalement illettrée. Et ces œuvres sont d'autant plus importantes que les images et les écrits produits par les boxeurs sont extrêmement rares.
Oui, mais alors ce qui est intéressant, si je comprends bien, ce sont des communiqués de victoire, mais de victoire imaginaire en fait.
Oui, en fait, ces nombreuses gravures sur bois se multiplient au moment où les rebelles chinois essuient une série de défaites militaires. Elles représentent précisément des victoires imaginaires contre les forces étrangères. Et ces estampes exaltent l'héroïsme des combattants tout en représentant les ennemis occidentaux et japonais dans une posture humiliante ou même en captivité. À l'image de cette estampe de la fin 1900 que vous pouvez découvrir sur le site de l'émission, qui décrit le triomphe spectaculaire des troupes chinoises qui submergent les soldats étrangers, bombardés de toutes parts et contraints de battre en retraite. En revanche, on ne compte aucune victime chinoise. Et on retrouve sur cette image les codes de ce qu'on appelle l'opéra de Pékin, qui est un genre très populaire avec des danses acrobatiques, des costumes flamboyants. Alors qu'en réalité, les boxeurs ont perdu cette fameuse bataille de Tianjin à l'été 1900. Mais
c'est un faux image
que l'on offre habituellement pour la nouvelle année, en fait, sont évidemment des images contrefactuelles, des contre-récits qui agissent comme une sorte d'opium spirituel. Elles doivent remonter le moral patriotique des Chinois, et même en dessinant un cercle autour des soldats étrangers sur les estampes, leur détenteur peut porter malheur aux adversaires et participer à sa manière au combat contre les diables étrangers.
Donc d'une certaine manière, ces images ne mentent pas totalement. Elles nous disent quelque chose de la réalité de la guerre.
Alors elles nous disent quelque chose de l'arrêté de la guerre dans la mesure où elles nous invitent à dépasser le cadre traditionnel d'entendement de la guerre qui distingue clairement les vainqueurs des vaincus. En effet, lorsqu'on abandonne le point de vue des états-majors et même celui des grands manuels d'histoire, l'idée de victoire comme celle de défaite peut être relative. Et en Chine, en 1900, au lendemain de leur victoire militaire, les étrangers se plaignent constamment des Chinois qui ne se comportent pas comme des vaincus. Et il faut dire que les principaux vice-rois de Chine, à la tête des armées les plus puissantes, les plus modernes, ne se comportent pas en vaincus car ils n'ont pas été défaits sur le champ de bataille. Parce qu'ils ont ignoré la déclaration de guerre prononcée par le gouvernement impérial de Pékin et ont poursuivi leurs discussions avec les puissances étrangères jusqu'à la signature d'une sorte de paix séparée. Finalement, ces images de victoire imaginaire conduisent les historiennes et les historiens à replonger dans le passé, à nuancer l'étendue de la domination occidentale et à retrouver l'incertitude de cette situation historique.
Et alors, qu'est-ce qui fait pont d'une certaine manière avec ce dont on a parlé dans cette émission sur les images de torture et de guerre? Est-ce qu'il y a d'une certaine manière, oui, une sorte d'invariance historique dans cette capacité à faire la guerre avec les images?
Alors ce qui paraît particulièrement intéressant dans ces gravures, c'est que précisément on ne peut les comprendre qu'en les inscrivant dans le temps long. Puisqu'on s'aperçoit en les étudiant de près que cette gravure de 1900 en fait est la reproduction exacte de gravures déjà produites en 1884-85 dans la guerre entre la Chine et la France. La même gravure a été utilisée pendant la guerre entre la Chine et le Japon entre 1894 et 95, toujours à l'occasion de défaites transformées en victoires imaginaires. Et donc, on voit bien comment ces gravures elles-mêmes sont un moyen d'entrer en contact avec le passé en le pensant précisément dans une continuité du temps long.
Et cette continuité, elle est aussi artistique, Nadja Al-Bokhari, vous l'avez dit, à partir du moment où vous gravez vos dessins, eh ben, vous rentrez aussi dans l'histoire de l'art, de la gravure, et il y a Piranèse, et il y a Goya, et il y a Mozic, et puis il y a aussi toutes ces œuvres, c'est très émouvant dans le livre dont je parlais, Denis Laffey, Nadja Al-Bokhari, Graver la mémoire. Il s'achève, c'est un album de votre œuvre, par celles que vous avez laissées, celles qui sont restées en Syrie, c'est-à-dire votre œuvre d'avant la catastrophe, d'avant 2011, enfin, qui n'était pas une catastrophe en soi, qui était justement une espérance, le début des printemps arabes. Ça s'appelle Nadja Hier. Toutes ces images, vous ne les voyez plus, mais vous les avez numérisées. Comment ça se passe?
En fait, c'est ma femme qui a tout numérisé pendant que j'étais en prison. C'est à la conseil d'un ami, parce qu'ils avaient plus de nouvelles de moi et ils craignaient que mon atelier soit saccagé par le régime. Donc ils ont numérisé toutes mes œuvres, des peintures et des dessins. Et là, franchement, je sais pas comment je peux retourner à Damas et voir mon atelier, parce que j'hésite, craignant un tsunami d'émotions que je suis pas capable de le recevoir.
Ce tsunami d'émotions, Cécile Boeckx, c'est celui qui étreint beaucoup de réfugiés aujourd'hui, syriens, en ce moment, qui reviennent ou qui reviennent pas, qui hésitent à revenir. Comment ça se passe pour vous, pour celles et ceux que vous connaissez?
Je sais que la première fois, c'est très compliqué, mais pour toutes celles et ceux qui sont revenus une fois, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Et après, ça dépend des histoires de chacun aussi. Des vécus de chacun, dans quelles conditions ils sont partis, est-ce qu'ils ont été détenus. Enfin, c'est très compliqué d'essayer de généraliser, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose de très, très fort. Et encore une fois, c'est quelque chose qui était inimaginable. On pensait que ce lieu était, qu'on n'allait jamais y retourner. Donc, il faut se refaire à cette idée, il faut se reprojeter, en fait, là-bas. Et je pense que c'est un chemin qui est long.
Oui. Nibras Chehayed, vous êtes toujours avec nous au téléphone depuis Beyrouth.
Je suis avec vous.
Bon, vous avez travaillé depuis Beyrouth sur ces questions d'images, et puis on y a fait allusion avec cette tête de Bachar el-Assad. Il y a aussi aujourd'hui les images, justement, de la destruction du régime. Il y a plein de choses maintenant à documenter. À nouveau, sur la résistance syrienne victorieuse. Vous êtes à l'œuvre, j'imagine.
Alors voilà, je dirais que voilà, la tête dont parlait Najjar tout à l'heure, qui a dessiné ce corps absolu, est tombée.
Et ce n'était que du plâtre, finalement.
Ben voilà, en fait c'était du plâtre, je ne sais pas si c'était vraiment... Mais c'était, ça a causé une destruction massive, mais c'était un corps qui se veut indestructible, qui a occupé tous les champs visibles, sonores, linguistiques des Syriens et Syriennes. Alors aujourd'hui, je dirais, travaillons à ne pas ériger un nouvel absolu, et soyons grotesques envers la possibilité d'un nouveau absolu pour le déconstruire.
C'était Allons-y voir. Merci à vous quatre, Nadja Al-Bokhari, Cécile Boeckx, Nibras Chehayed et Pierre Saint-Garavelou. Toutes les références de vos livres, de vos parutions, de vos actualités sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Jean-Guilain Meige et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.
يا